Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'historien Pierre Nora de l'Académie française a mené une double carrière d'universitaire et d'éditeur. D'éditeur chez Julliard, où il a créé la collection de poches archives, et chez Gallimard, où il a créé plusieurs collections qui sont à leur tour entrées dans l'histoire, la Bibliothèque des sciences humaines, la Bibliothèque des histoires et également la collection Témoins. Il est l'auteur bien connu de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Les Français d'Algérie » en 1961 et « Les lieux de mémoire » publié à partir de 1993, dont il a dirigé l'aventure et qui constitue aujourd'hui, comme à sa sortie d'ailleurs, une référence incontournable. Il a fondé en 1980 la revue Le Débat avec le philosophe Marcel Gaucher, une revue qui s'est imposée comme un des éléments majeurs de la vie intellectuelle française. Pierre Nora, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes parmi les historiens l'un des meilleurs connaisseurs de l'historiographie et du sentiment national. Et parmi toutes vos occupations, vous êtes aussi le président de l'association Liberté pour l'Histoire. Vous avez publié en septembre 2008 un texte avec Françoise Chandernagor, qui est la vice-présidente de cette association, un livre qui reprend le nom de l'association, donc Liberté pour l'Histoire, chez CNRS Éditions, un texte court dont vous avez senti la nécessaire publication à partir de 2007 quant à ces questions d'histoire, de mémoire et de loi qui ont pris une dimension internationale, européenne en l'occurrence, en proposant l'adoption d'une décision cadre européenne qui punit dans tous les États membres de l'Union ce qui ferait l'apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Alors peut-être faut-il commencer par vous demander tout d'abord comment est née l'association Liberté pour l'Histoire en 2005 et dont le premier président était votre confrère René Raymond de l'Académie française.
Je vous remercie de m'inviter à parler de cette association qui est née en effet en 2005 de la conjonction de deux affaires relativement différentes. La première à laquelle j'ai été mêlé comme éditeur est l'incrimination d'un livre que je venais de publier d'un auteur qui s'appelait Olivier Pétré-Grenouillot sur les traites négrières, qui est une sorte de vaste synthèse qui essayait un peu dans le sillage d'une histoire globale et totale de Fernand Braudel, de prendre la dimension d'un phénomène aussi large et mondial que les traites négrières et de mettre la traite atlantique et européenne, donc en rapport avec les traites antécédentes du monde arabe et les traites intra-noires du continent africain sans lesquelles la traite européenne n'aurait même pas pu avoir lieu. Et aussitôt publié, le livre a été distingué en particulier par le prix du Sénat dont le jury était présidé par René Raymond et qui s'est vu au sortir de ses délibérations assailli par un collectif des Noirs, des Antillais, Guyanais, Réunionnais qui a sommé Pétré-Grenouillot de se rétracter sur ces affirmations comparant les traites négrières entre elles et le sommant de s'expliquer sur la loi Taubira qui venait d'être votée depuis quelques années et qui déclarait comme crime contre l'humanité l'esclavage et la traite des Noirs. Et il a dit que si moralement, bien entendu, c'était un crime contre l'humanité, il ne pensait pas très opportun de criminaliser le passé si lointain et qu'on ne pouvait pas le comparer avec ce qui était le crime contemporain qui avait été à l'origine du crime contre l'humanité, c'est-à-dire l'Holocauste, la Shoah, qui avait été condamnée dans le négationnisme dont elle pouvait faire l'objet en 1990 par la fameuse loi Guesso. L'autre phénomène, c'est qu'au même moment était discutée à l'Assemblée cette loi sur la colonisation qui était, au moins dans son article 4, l'obligation pour les programmes scolaires de reconnaître le caractère positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et d'accorder à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française la place éminente à laquelle ils avaient droit. Cette officialisation du caractère positif de la colonisation était évidemment en contradiction avec ce qui était en train d'être fait. Alors, il y a eu, de la part des historiens en général, une sorte de levée de bouclier et de prise de conscience des risques que commençait à faire peser sur l'exercice de la recherche et de l'enseignement, sur la pratique de l'enseignement, cette vérité officielle d'État qui rappelait les beaux jours des États totalitaires, qui n'avaient jamais eu lieu dans aucun État démocratique, et qui mettait en quelque sorte l'apothéose ou le point à une sorte de dérive sur laquelle nous allons revenir depuis la loi Guesso, où avait été successivement votée en 2001 cette loi Taubira à laquelle je viens de faire allusion, mais aussi la loi au nom de laquelle, en un seul article, sans arrêter d'application, la République française reconnaissait le génocide arménien.
Avec la réforme du code pénal.
Avec la réforme du code pénal. Et qui indiquait une sorte de dérive d'autant plus inquiétante que nous avons appris à cette occasion, qui était sous le coude, presque en projet de présentation à l'Assemblée, une loi qui criminalisait la guerre de Vendée, et bientôt la Saint-Barthélemy, etc.
Il y avait une vingtaine de projets.
Il y avait une vingtaine de projets qui allaient presque jusqu'aux croisades. Alors, il y a eu une sorte de mobilisation. Nous avons fondé cette association Liberté pour l'Histoire et René Raymond l'a présidée. Hélas, j'ai été amené à lui succéder à cause de son décès.
Ce livre, Liberté pour l'Histoire, est composé de deux textes, un texte de Pierre Dorat et un texte de Françoise Chandernagor. Votre texte, vous l'avez intitulé « Malaise dans l'identité historique ». Et juste avant, on va revenir dessus, juste avant, vous avez placé justement en exergue un extrait d'un article de René Raymond sur la place des politiques et sur leur rapport à l'histoire.
Voilà, c'est parce que René Raymond lui-même avait fait, entre autres interventions comme président, un bel article dans la revue Études sur la loi et la mémoire, où il s'alarmait précisément de l'activité des politiques qui étaient amenés à prendre des décisions sur des sujets dont ils n'avaient aucune compétence, pour des motifs purement électoraux, parce qu'ils étaient issus de mondes, de territoires, où une catégorie minoritaire mais influente de la population pouvait constituer un électorat puissant, rapatriés d'Afrique du Nord, arméniens et autres types d'électorats minoritaires. Et il s'alarmait à juste titre de ce que cette ingérence politique dans le domaine de la liberté, de la recherche et de l'enseignement de l'histoire pouvait aboutir à une véritable guerre des mémoires, et à une mise sous tutelle de l'esprit historique. Donc, à tous égards, si vous voulez, il y a eu une réaction possible.
Vous partagez toujours le fait que des considérations électorales, aujourd'hui, en 2009, peuvent toujours induire, disons,
ce type
de loi
clair,
mémorielle.
C'est une évidence. Ces lois mémorielles sont prises un peu à la va-vite et souvent à l'unanimité, précisément, parce que les députés y voient des raisons politiques. Et puis, il y a beaucoup plus qui me ramène au titre sur lequel vous m'interrogiez, malaise dans l'identité historique. Eh bien, parce que je pense que, comme le disait Marc Bloch, l'historien, les deux péchés capitaux de l'historien, c'est l'anachronisme et la moralisation. L'anachronisme veut dire que le travail même de l'historien est de restituer l'enchaînement des choses, des mentalités et des faits, de voir comment nous sommes arrivés à nous-mêmes, mais à partir ou à travers beaucoup de péripéties qu'il s'agit de restituer, de comprendre. C'est ça le travail de l'historien. Et qu'il faut se garder de projeter, ou plutôt de rejeter dans le passé, des sentiments qui sont les nôtres aujourd'hui. Il est évident que cette notion du crime contre l'humanité, elle est venue de la découverte de l'indicible horreur qu'avaient représenté les camps d'extermination et de concentration en Allemagne. Et de ces fantômes faméliques qui nous revenaient, quand ils nous revenaient, comme survivants. Et que le crime contre l'humanité a été, à Nuremberg, au procès de Nuremberg, élaboré par des juristes américains et européens pour créer une pénalisation qui poursuivrait jusqu'à leur mort tous ceux qui avaient pu être les auteurs de ces crimes. C'était ça l'idée.
Et en
remontant... n'est pas du tout de rétrospectivement criminaliser le passé lui-même.
Et je crois que c'était juste 5 ou 8 ans avant la guerre aussi, le retour en arrière, non ?
C'était la criminalisation récente
des faits. Oui, je croyais que ça pouvait remonter jusqu'aux années 30,
mais pas au-delà. Oui, parce que la criminalisation du génocide et la définition d'un génocide comme d'un crime de masse dont on pouvait définir des auteurs et une ordonnance, c'est-à-dire un commandement, c'est-à-dire une décision, si vous voulez, de ce crime. Et non pas des crimes de masse spontanés qui peuvent être des massacres terribles dont le monde contemporain a été, hélas, le théâtre fréquent, mais qui n'obéissaient pas à une idéologie destructrice comme avait pu représenter l'hitlérisme. Bon, alors un historien, c'est pour ça que je parle de malaise, ne peut qu'être mal à son aise avec une notion qui, certes, signale peut-être une volonté de progrès de la conscience universelle, mais qui, appliquée à tout va au passé, aboutit à des anachronismes stupéfiants. Il est évident que l'esclavage est un crime moral contre l'humanité à nos yeux aujourd'hui. Faut-il condamner pour autant Platon, Socrate et toute l'Antiquité romaine ou grecque d'avoir appliqué le... Faut-il ne pas comprendre l'évolution que l'image du noir a pu subir depuis le XVIe siècle, où le problème des chrétiens était de savoir s'ils avaient une âme ou s'ils n'avaient pas d'âme? Je peux reconnaître aujourd'hui que c'est quelque chose qui nous paraît un peu aberrant, mais qui, à l'époque, a été très discuté sérieusement par des gens très sérieux, même si de grandes consciences, comme Lascaz, par exemple, avaient pu, ce Lascazas, s'insurger contre l'idée du génocide, finalement, puisqu'il faut donner le mot, qu'on avait appliqué aux Indiens en Amérique. Alors, et que tout le mouvement humanitaire, au XVIIIe siècle, s'est élevé, avec d'ailleurs des modalités, même chez des Voltaire, qui avaient des actions, comme vous le savez, dans le commerce triangulaire des esclaves, ou chez Montesquieu, qui modulait des réserves sur cette... ou même Montaigne avant eux. Donc, en dépit d'un courant anti, disons, esclavagiste et même après anticolonialiste, il faut comprendre que l'image de la colonisation, par exemple, n'a pas été uniformément mauvaise ou uniformément bonne, et que ce sont des phénomènes historiques qui sont profondément formateurs de la mondialité moderne, qu'il s'agit de comprendre et de faire comprendre, dont il s'agit de faire sentir ce qu'ils ont pu être et les effets qu'ils ont eus. C'est ça le rôle de l'historien, mais pas de les condamner en bloc. Voilà. Et sans discrimination ou sans examen aucun. Alors ce sont ces deux péchés capitaux qui inspirent quand même l'unanimité un peu benette et en même temps intéressée des politiques, qui vote à tout va la criminalisation de la guerre de Vendée, de la Saint-Barthélemy, des croisades et tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, je pense que si les historiens ne s'érigeaient pas en gardiens du bon sens, en gardiens de la liberté, et que dans ce rôle, ils manqueraient à leur mission, aujourd'hui, où ils se trouvent...
Quelle est la mission de l'histoire aujourd'hui pour vous ?
Oh ben, je vous dirais, c'est très simple. C'est de, ce que j'allais dire, c'est le faire savoir, c'est le faire sentir et c'est de faire comprendre les phénomènes du passé. Faire savoir, ça suppose beaucoup de connaissances réunies, confrontées, critiquées, distancées de toute nature et de toute pièce sur lesquelles on peut se renseigner. Faire comprendre, c'est de rétablir le phénomène ainsi restitué dans sa vérité, entre guillemets, dans l'ensemble qui peut l'expliquer et le faire comprendre aux autres, et faire sentir, je crois que c'est aussi important, c'est de faire droit au phénomène de sensibilité, se mettre d'empathie que tout historien doit avoir avec la mort, avec ce qui est disparu, avec un phénomène disparu, avec les disparus, et qui par conséquent englobe la prise en compte de la mémoire des témoins et des vaincus. Mais s'il revient aux politiques, à coup sûr, de rendre justice aux vaincus de l'histoire, de les honorer, de réparer dans la mesure où c'est possible, peut-être même financièrement, de commémorer leur souvenir de ces vaincus, il ne leur revient pas d'écrire une histoire du point de vue complet des victimes. Parce que, et c'est cela à quoi mène cette espèce d'hégémonie de la mémoire, de montée en puissance de la mémoire, qui doit être pris en compte par les historiens, mais qui ne doit pas aboutir au renversement de l'histoire au nom d'une vérité de la mémoire.
Alors effectivement, vous pensez qu'au-delà de ça, dans notre société, il y a même une tentation anhistorique.
Voilà.
C'est quand même grave. Enfin, je pense que ce constat.
Je pense que c'est grave. Oui, je pense que nous risquons de sortir d'une sorte de conscience de nous-mêmes génétique et que il n'est pas possible qu'une communauté, quelle qu'elle soit, ait une vision uniquement négative de sa genèse et de son origine et de sa vie, sans quoi on aboutit à une sorte de masochisme désespérant et pour les professeurs d'histoire à un suicide. Parce que pourquoi enseigner l'histoire si c'est un crime qu'il vaut mieux oublier ?
Pierre Nora, revenons peut-être un petit peu à l'extension de la loi Guesso qui est à l'origine de toutes ces lois mémorielles, en fait, qui a ouvert le boulevard à l'adoption, à la proposition puis à l'adoption de ces lois. Vous expliquez très bien que cette extension de la loi Guesso a conduit à une double dérive. Justement, cette rétroactivité sans limite et puis cette victimisation généralisée dont vous venez de parler. Qu'est-ce qui fait que la loi Guesso, justement, a ouvert cette porte ?
Alors, je vous remercie de poser la question de front, parce qu'elle me permet d'y répondre de front, et qu'elle a été un des obstacles majeurs à ce que beaucoup d'historiens nous rejoignent dans notre combat de liberté pour l'histoire. Parce que dans notre protestation contre l'ingérence des politiques dans le domaine historique, nous avons dû aller, non sans y réfléchir, jusqu'à inclure dans notre réprobation cette loi Guesso, qui cependant, ni du point de vue juridique, ni du point de vue moral, ni du point de vue historique, n'est comparable aux autres. Du point de vue juridique, c'est la mieux faite de ces lois.
Oui, en plus.
Du point de vue, c'est la plus solide, alors que les autres sont bricolées, disons.
Et
si elles étaient passées
juridique.
Devant le Conseil constitutionnel, elles auraient toutes été retoquées. Mais aucune n'est passée devant le Conseil constitutionnel. Donc c'est la mieux faite. D'autre part, et surtout, c'est la plus actuelle, contemporaine, conjoncturelle. Elle a été prise en 90 en plein essor de ce qu'on a appelé le négationnisme, dont Faurisson était le héros à l'époque, et Le Pen pas très loin, il faut le dire quand même, et qui développait une propagande disant que les camps d'extermination n'avaient pas existé, tout simplement, et que c'était une invention des sionistes et des américano-juifs. Voilà. Bon. Alors, c'était moralement, intellectuellement inadmissible, et on peut comprendre que des lois aient pu paraître bienvenues pour pénaliser la négation du génocide. Donc, on peut comprendre, si vous voulez, moralement la chose. Je me souviens personnellement de n'avoir pas signé une pétition d'historiens qui appuyait cette loi Guesso au moment où elle était faite. Pourquoi ? Parce que précisément, je commençais à travailler sur la mémoire et je craignais que si on se mettait, pour les meilleures raisons du monde, à privilégier un groupe de mémoire, toutes les autres y passent. Et qu'on mettait le doigt dans un engrenage dont on ne sortirait plus. C'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas été le seul à être contre. Des gens comme Pierre Vidal-Naquet, mon ami, a été contre pour des raisons de principe moral. Et je dirais presque dreyfusienne, si vous voulez. Ou une historienne comme Madeleine Rébériou, qui était présidente de la Ligue des droits de l'homme, ce qui n'est pas rien, et parce qu'elle avait été une ancienne communiste et qu'elle savait que ce type de loi dérivait toujours vers le pire. Je vous signale, d'ailleurs, que le 9 mai dernier, Medvedev, en Russie, a institué une commission destinée à figer la version stalinienne de la Seconde Guerre mondiale et qui incluait non seulement la négation de Katyn, par exemple, de cette massacre des officiers sur lequel il y a un film actuellement de Vajda, mais qui indiquait que 44 et 45, la Pologne, les États baltes avaient été libérés par la Russie. C'est tout. Alors, cette version, même si tout le monde est d'accord pour sanctifier d'une certaine façon Stalingrad, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Cette loi est contre les Ukrainiens. C'est évident que c'est une mesure destinée à voler aux Ukrainiens une des victoires de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dire que toutes ces affaires ne sont pas du tout réglées et qu'elles continuent à empoisonner le monde intellectuel. Alors, vous parliez tout à l'heure, madame, vous avez tout à fait raison, de cette loi dont, hélas, la France a été à l'origine, en 2000, introduisant au Conseil européen une demande d'élargissement de la loi Guesso à l'Europe tout entière et d'élargissement du crime contre
pour 2007,
de l'humanité qui a été voté finalement en 2007 et qui crée un délit non seulement de négationnisme mais de banalisation de la négation.
C'est-à-dire qu'on était sur le point de créer d'autres délits,
On les a créés en 2007, hein, simplement en 2007. Grâce précisément à l'action de Liberté pour l'Histoire. Le gouvernement français, par l'intermédiaire de M. Jouyet, qui était à ce moment-là ministre de l'Europe, a fait prendre une option restrictive à la France, que j'espère que d'autres pays vont imiter, et qui, au niveau européen, consiste à dire, puisque nous sommes obligés dans les 2 ans d'adapter cette loi européenne à notre législation nationale, que nous ne reconnaîtrons comme crime de guerre et crime contre l'humanité que ce qui aurait été déclaré tel par une autre instance internationale. Ce qui donne un minimum, si j'ose dire, de garantie. Pour être clair, cela veut dire que Srebrenica sera criminalisé, que le Rwanda sera criminalisé, que la Bosnie, etc., sera criminalisée, très probablement, mais que la guerre de Vendée ne pourra plus l'être. Voilà, c'est ça concrètement ce que ça veut dire.
Donc, l'association La Liberté pour l'Histoire a remporté une belle victoire.
Je dirais modestement oui. Je dis modestement parce que nous avons été très nombreux et nous nous sommes beaucoup dépensés auprès des politiques, auprès du public. Et la petite brochure dont vous parlez était destinée, en fait, à favoriser une intervention que nous avons pu faire en novembre dernier à Blois, où a lieu, vous le savez, tous les ans, un rendez-vous de l'histoire, qui cette année était consacré à l'Europe et aux Européens. C'est pourquoi M. Jean-Luc Jeanneney, qui présidait, nous a engagés à profiter de l'occasion pour faire un appel international qui a mobilisé, tenez-vous bien, en quelques semaines à peine, 1000 historiens étrangers de presque tous les pays d'Europe ou du monde. Notre appel de Blois, puisque c'est ainsi qu'il passera dans l'histoire, a été traduit dans la presse anglaise, américaine, Los Angeles Times, par exemple, qui n'est pas rien, dans La Repubblica, dans plusieurs journaux italiens et espagnols, hélas, pas en Allemagne. Et je dis hélas parce qu'en fait, en Allemagne, on n'a pas tellement de succès. Il est intéressant de savoir que, par exemple, un philosophe comme Jürgen Habermas, que j'avais sollicité personnellement, m'a répondu que intellectuellement il comprenait notre attitude et il la partageait, mais qu'appartenant à un pays qui était responsable de la Shoah, il ne pouvait pas condamner complètement l'idée de loi répressive sur la négation. Ils s'en sont à la loi Guesso, si j'ose dire, qu'ils n'ont pas encore. Enfin, ils ont un peu l'équivalent. Et il faut bien ajouter, pour comprendre la situation, que seul, de tous les pays du monde démocratique, la France s'est lancée dans cette aventure législative.
Expliquez-vous, Pierre Nora, cette particularité française, ces conflits de mémoire qui sont si vifs, ou pourquoi est-ce que nous avons cette particularité? Et puis, et même au niveau du droit, c'est quand même pas, je suppose, le rayonnement extraordinaire du droit français qui s'est imposé là à l'Union européenne.
Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup.
Comment on peut l'expliquer? Comment l'expliquez-vous?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord une raison très politique, constitutionnelle et conjoncturelle à la France, c'est que nous ne disposions pas dans l'arsenal législatif de la possibilité de faire des résolutions, c'est-à-dire des déclarations solennelles que l'Assemblée prononce et qui ne sont quand même pas des lois. Quand, par exemple, la loi dit « la République française reconnaît le génocide arménien », c'est une déclaration, une loi sans arrêt d'application, c'est une résolution, ça n'est pas une loi. Mais comme la législation française ne le permettait pas, jusqu'à présent du moins, je dis jusqu'à présent parce que la nouvelle...
Depuis 2008, juillet.
Et beaucoup grâce à nous, une fois de plus, car sommes... beaucoup auprès de la commission Balladur, nous sommes intervenus très
activement. Vous avez œuvré.
On a œuvré et ils ont compris tout à fait le problème, y compris M. Sarkozy, que nous étions allés voir avec René Raymond quand il était ministre de l'Intérieur et qui nous avait dit « je comprends le problème, si l'occasion pour moi se présente d'en avoir la possibilité, ça voulait dire si j'étais président de la République, j'œuvrerai dans ce sens des
résolutions. » Il a rectifié les choses avec
voilà.
Le Parlement ne fait pas, enfin,
c'est pas
les
loi,
termes.
Ce qui est différent, si vous voulez, une déclaration, ça n'engage que ceux qui la font et ça n'oblige pas la population et la juridiction à appliquer la loi et donc à pénaliser. Mais au-delà de cela, il y a des raisons qui sont beaucoup plus, je crois, profonde à ce que la France a cette particularité nationale. Il y a probablement que c'est la France qui a été probablement le plus sensible à la montée en puissance des minorités mémorielles, d'abord parce qu'elle en possède beaucoup, par l'immigration, par le mouvement féminin, par féministe, par l'arrivée brutale des Noirs massives à partir des années 1990. Il y a une poussée, et cette poussée mémorielle, je pense, est d'autant plus forte en France que la France a eu, par sa centralisation, par sa toute-puissance de l'État, par le rôle qui a joué l'école, un respect de l'histoire, une sacralisation de son passé, une conscience nationale dont l'axe était profondément historien et historique, qui a fait que l'émancipation même, de caractère très démocratique de ces minorités, les femmes, les provinciaux, les juifs, toutes les minorités, disons, qu'elles soient sexuelles, sociales, religieuses, se sont accompagnées d'une sorte de d'émancipation mémorielle. Je m'explique plus simplement. Dans la tradition de la Troisième République, vous pouviez être fils d'un ancien guillotiné de la Révolution, fils d'un immigré polonais des années 1920, fils d'un fusillé de la Commune. Si vous étiez côte à côte à l'école, vous étiez des petits Français comme les autres, et votre tradition de mémoire lourde, familiale, était entretenue chez vous, en famille, mais pas à l'école. Il y avait quelque chose de très coercitif, de puissamment unificateur, de extraordinairement, qui disposait à la promotion sociale dans cette unification et cette uniformisation. Elle a été profondément brisée par l'émancipation précisément de toutes ces minorités qui ont réclamé en quelque sorte le droit d'être eux-mêmes et l'inscription de leur propre histoire sexuelle, religieuse, familiale dans le cadre d'une histoire nationale élargie. Le mouvement féministe, la revendication des juifs, l'émancipation des provinces, des ouvriers, vous voyez, de tout cela a certainement fait exploser ce cadre très particulièrement coercitif, qui était presque l'emprisonnement historien et historique que l'école avait largement imposé. Alors, je pense que c'est une raison profonde, c'est que la mémoire s'est vengée du culte de l'histoire, si j'ose dire, et que ça donne en France un mouvement très particulièrement fort à cette revendication.
En plus, cette dimension mémorielle a vraiment fécondé l'histoire, comme vous dites, et l'a joué au niveau de l'historiographie. Alors là, vous venez de l'expliquer, un rôle majeur qu'on trouve aussi dans d'autres pays, qui n'est pas forcément lié uniquement à l'histoire de France et à son histoire officielle aussi et à toutes ses recherches historiques. Vous parlez dans ce texte « Liberté pour l'histoire », en malaise dans l'identité historique, d'un choc mémoriel que la France n'a pas digéré de ces 30 dernières années. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce choc mémoriel qui, semble-t-il, n'est pas celui justement de ces mémoires auxquelles nous sommes tous habitués quand même, ces mémoires de la colonisation, des sujets qui fâchent les mémoires en France. Ma question est la suivante. Est-ce que la mondialisation de l'information, de l'éducation, des pratiques culturelles, est-ce que cette mondialisation, entre guillemets, fait qu'aujourd'hui, on prend de pleine face cette mémoire mondiale? Et est-ce que c'est ça qui...
C'est pas simplement la
qui
mémoire
qu'on,
mondiale.
Qui fait que ça aiguise davantage encore nos mémoires communautaires?
La France vit particulièrement mal le réveil brutal de la question coloniale et des mémoires dites coloniales qu'en tant qu'ancien empire mondial, elle a pu assumer. Et que cette offensive ou cette mise en question par le problème général de la colonisation n'est que le point final, l'apothéose, enfin la généralisation presque, d'un mouvement mémoriel, d'un choc mémoriel, comme vous dites, en reprenant mes mots, qui s'est révélé très nettement dans les années 70-80, 1970-1980, où simultanément vous avez eu l'éveil de beaucoup, de presque toutes les minorités. Et je crois que 1968, symboliquement, en marquerait la date repère d'explosion, ou même là une nouvelle mémoire faite d'une absence de mémoire, enfin complexe dans la mesure où c'était une forme de mémoire révolutionnaire et commémorative que 68 célébrait d'une certaine façon, au moment où la révolution précisément cessait d'être à l'ordre du jour et des partis politiques, et en particulier du Parti communiste. Pour moi, une des dates très importantes de cet éveil mémoriel, c'est 1980. Qui est l'année dite du patrimoine.
1980.
Oui. C'est en 1980 qu'a été décrétée, après l'année de la femme et l'année de l'enfant, l'année dite du patrimoine. À l'occasion de... L'affaire est très amusante, mais je n'ai pas le temps tout à fait de la répondre. Mais c'est Giscard d'Estaing, président, qui, à la veille précisément de la campagne électorale, a trouvé au fond à la fois bon, utile politiquement, pas antipathique intellectuellement, de favoriser une sorte de conscience des vieilles choses, n'est-ce pas, et d'accompagner cette espèce d'élan des Français vers leur propre passé, et a déclaré 1980 année du patrimoine. Et à la stupeur du ministère de la Culture, qui avait lancé un appel d'offres en quelque sorte sur cette année du patrimoine, on a découvert une sorte de poussée de 6000 associations spontanées qui depuis 10 ans s'étaient créées pour défendre le lavoir du village, le rempart de la citadelle, refaire l'église. Et ce n'était pas du tout des vieux aristocrates de province un peu ruinés qui voulaient reconstituer la France du passé, pas du tout, c'était des écolos ou des 68ards retirés
À
la campagne, des instituteurs et pas des, j'allais dire, des membres du clergé, enfin vous voyez, qui tout d'un coup se tournaient vers cette réappropriation, c'était le grand mot de l'époque, des formes du passé, avec des restitutions de, de fêtes villageoises qu'on croyait être celles du XVIIe ou du XIIe ou de l'Ancien Régime, avec le Puy du Fou, par exemple, qui a été tout à fait l'image même théâtrale par Villiers de cette
mise en scène.
Festivité et cette mise en scène, oui, absolument, vous avez raison. Et donc, je dirais, et c'est d'ailleurs très curieux, parce que c'est à ce moment-là que les dictionnaires font droit à cette transformation du mot patrimoine.
Ça, c'est l'éditeur qui parle ?
Oui, oui. Et, enfin, c'est l'historien, parce que j'ai un peu travaillé.
Bien sûr, je sais bien.
Et qu'on voit les dictionnaires eux-mêmes adaptés à cette conscience publique en donnant comme premier sens au mot patrimoine, non pas bien qui descend du père et de la mère, le bas de laine et le patrimoine pour le notaire et la... mais bien culturel de l'humanité, etc. etc. Bon, alors, tout ce mouvement qui correspond par exemple avec la découverte du patrimoine ethnologique, le souci du patrimoine industriel, le développement du mouvement des musées, des archives, c'est le moment, je dirais par exemple, autrefois, dans une entreprise, il n'y avait pas d'archiviste pour commencer, et le chef d'entreprise était pour qu'on brûle les archives et qu'on ne parle que du futur et pas des anciennes collections et des anciens papiers. Eh bien, dans ces années 80, on voit la plupart des grandes entreprises se munir d'archivistes professionnels qui leur expliquent d'ailleurs à eux, chefs d'entreprise qui veulent tout conserver, qu'il faut beaucoup détruire et ne conserver que ce qui est significatif. Donc il y a tout un mouvement qui se développe sous toutes les formes, sous des formes d'ailleurs d'une multiplication des commémorations.
Et oui, vous avez aussi fait
voilà,
jusqu'à
l'an dernier. C'est en 1978 qu'a été créée cette délégation aux célébrations nationales, à laquelle d'ailleurs M. Maurice Druon, ministre de la Culture avant, n'avait pas du tout été étranger, au contraire, et qui était destinée à instituer des commémorations nationales et des célébrations. Et ce comité n'a cessé d'être renforcé et a publié régulièrement depuis ces années-là une très belle brochure chaque année des célébrations nationales qui ont pris maintenant une sorte d'institution présidée par, jusqu'à l'année dernière par M. Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et alors, c'est passionnant à feuilleter parce qu'on s'aperçoit des commémorations locales de l'inventeur de la conserve, l'homme qui a généralisé les sabots. Ah bah tiens, j'ai oublié de vous signaler pendant cette période la grande naissance du musée de ce qu'on appelait les écomusées, c'est-à-dire la reconstitution locale de musées de type ouvrier qui étaient en train de disparaître complètement. La vieille classe ouvrière française était en train de disparaître dans ces... Alors, je vous signale aussi que c'est à une date très précise, 1975, que le taux de la population active en France engagée dans l'agriculture tombe au-dessous de 10%. Et d'ailleurs, ces 10% ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus des paysans, c'est des agriculteurs, ce qui change complètement la nature. Et donc, il y a une sorte de disparition conjointe de la vieille classe ouvrière, sur lesquelles était fondé le Parti communiste, et de la disparition de la vieille classe paysanne, qui représentait encore 45% de la population active au lendemain de la guerre, alors qu'en Allemagne, ou en Italie, ou en Angleterre, la révolution industrielle était faite depuis longtemps. Donc il y a eu une sorte de retard français à l'allumage de la modernité qui s'est traduit brutalement, à une date également très précise, 1974-75, qui a connu le début, la première conséquence du choc pétrolier, la première crise, l'entrée dans la grande crise économique dont nous ne sommes pas sortis, et la fin de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses de la croissance, de 45 à peu près à 75 précisément, et qui a fait prendre conscience aux Français, j'allais dire, des dégâts de la croissance. de ce que on ne reviendrait pas en arrière et que la coopérative avait envahi le village, l'autoroute venait jusqu'à eux, les anciens métiers avaient disparu, les artisanats n'existaient plus, la vieille France qui avait perduré pendant tellement longtemps naufrageait brutalement et était définitivement embarquée, enlevée par ces 30 années brutales de croissance industrielle que la France avait connues tardivement. Je crois que c'est une des raisons majeures de ce que choc des mémoires, si vous voulez, et que, qui a ramené les Français à l'attachement à leur passé, à une revitalisation du sentiment national, mais sous une forme plus sentimentale et amoureuse que guerrière ou combative, n'est-ce pas ? Et les a décidés non plus à vouloir mourir pour la patrie, mais à en aimer les mœurs, les cuisines, les traditions, et à essayer de les connaître davantage.
Pierre Nora, tout à l'heure, vous parliez du malaise de l'identité historique. Alors, que préconisez-vous ? Qu'est-ce que les historiens d'aujourd'hui peuvent faire au regard des derniers acquis là, de la réforme constitutionnelle de 2008 ? Quels sont les points marqués, les derniers points marqués par l'association et que pouvons-nous faire pour ne...
Le dernier point marqué a été incontestablement, du point de vue français, ce rapport à Coyer. Et il marque une victoire à 90%, je dirais, du point de vue de la législation. Un, reste le problème européen. Sur le plan de cette législation, si vous m'interrogez en historien sur le fond des choses, j'arriverai mal à être vraiment optimiste. On a beau volontairement, au plus haut sommet de l'État, préconiser, vouloir, prétendre une sorte de retour à l'attachement national, à l'histoire nationale, aux héros nationaux, à tout ce que vous voulez, j'ai bien l'impression qu'une métamorphose profonde s'opère du rapport avec le passé, qu'une grande partie chavire dans l'oubli, que ça ne concerne pas que l'histoire. L'histoire est prise dans un réseau général des humanités qui comprend aussi bien le français, la langue, la littérature que l'histoire elle-même. Ne parlons même pas des langues anciennes, ma chère consoeur Jacqueline de Romilly, vous en parlerez mieux que moi. Ce socle sur lequel avait été fondée une forme de tradition et d'identité, trop friable maintenant, il a complètement disparu. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de France, qu'il n'y a pas de jeunesse, qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas de culture, qu'il n'y a pas, etc. Mais elles prendront des formes radicalement différentes, où il faut dire que l'histoire, en général, ne tiendra pas la première place. Il n'empêche que je pense qu'il revient aux historiens, et là, ça dépasse, si vous voulez, Liberté pour l'Histoire, même si ça en motive l'association, qu'il revient aux historiens de garder le sens profond de la chronologie, comme, aux linguistes, de garder le sens de la logique ou de la grammaire. Je pense que la chronologie n'est que la grammaire des civilisations, comme disait Braudel, et qu'il y a entre la logique et la chronologique, si j'ose dire, une logique, pour ne pas dire, en tous les cas, une familiarité, une parenté qui les lie. Et que de la même façon qu'on parle mal maintenant, aujourd'hui, notre langue, on parle mal notre passé. Voilà. Bon, cela dit, je ne serai pas pessimiste vraiment pour autant, ou totalement désespéré, disons. Simplement, je pense que...
Vous sentez que quelque chose bascule.
Oui, soyons clairs.
Malaise dans l'identité historique, c'est malaise dans la civilisation.
Bien sûr.
Pierre Nora, merci beaucoup pour votre éclairage.
Merci de votre invitation.
Merci beaucoup. Et je rappelle le titre de l'ouvrage « Liberté pour l'Histoire » CNRS édition. Et évidemment, les internautes peuvent aller voir également le site sur Internet de « Liberté pour l'Histoire ». Le site qui est lph-asso.fr.
Même s'ils font « Liberté pour l'Histoire », ils sont renvoyés à LPH-asso.
Merci, monsieur Nora.